Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Jésus-Christ a le pouvoir de sauver tout homme et toute femme de la plus terrible des épreuves. Voici l'espérance que nous voulons annoncer.
Nous suivons actuellement le cheminement d'une jeune femme, Jocelyne, qui a vu Jésus, notre Sauveur, agir dans sa vie, alors que tout semblait perdu. Son expérience étant riche en événements, nous aimerions revenir sur certains détails de sa vie, plus en profondeur.
Ainsi, aujourd'hui, nous allons écouter de nouveau Jocelyne, et elle va surtout nous mettre en garde contre tout engagement envers les sectes.
Et elle va nous apprendre dans un premier temps comment, alors qu'elle était voyante, elle s'est retrouvée impliquée dans une secte.
J'ai rencontré des personnes qui sont venues à ma porte, qui ont commencé à me parler de la Bible. J'étais pas trop intéressée au départ, mais quand elles sont revenues, eh bien, j'ai fini par vraiment m'intéresser, puisqu'elles m'ont demandé ce qui pouvait m'intéresser dans la vie, et je leur ai dit que c'était le spiritisme. À partir de là, elles m'ont trouvé un texte biblique qui s'y rapportait, et malheureusement, eh bien, je me suis retrouvée dans une secte, et cette secte a duré pendant 12 ans.
Après avoir passé plusieurs années dans la secte qui régissait sa vie, Jocelyne a trouvé le courage de son propre gré d'en partir. Cependant, ce n'est que quelques années plus tard qu'elle rencontre le Seigneur Jésus, le Sauveur. Mais quelle différence peut-elle constater entre sa vie d'église actuelle et la vie imposée par la secte dans le passé?
Alors la différence entre une secte et l'église à laquelle j'appartiens aujourd'hui, eh bien la différence c'est qu'aujourd'hui j'ai la liberté. Chose que je n'avais pas avant, parce qu'en fait, quand on appartient à une secte, vous ne décidez de rien. C'est la secte qui décide de tout pour vous, et en fait, c'est complètement un lavage de cerveau. Et donc, ce qui est vraiment désastreux, c'est que j'ai entraîné mes enfants, j'ai entraîné mon mari. C'était vraiment des années de frustration, puisque dans cette secte, il y a des choses, des fêtes, des choses comme ça, qu'on n'avait absolument pas le droit de célébrer. Donc, ce qui fait qu'on n'était plus dans le monde moderne, on va dire. Et vraiment, on agissait comme eux le voulaient, et dès l'instant où on avait tendance à vouloir vivre un petit peu, c'est-à-dire trouver un petit peu de liberté, eh bien, on se retrouvait dans une petite salle et ils avaient vite fait, comme on dit, de nous remonter les bretelles. En fait, c'était du 24-24. On n'avait pas de vie de famille, on n'avait absolument rien.
Tout à l'heure, nous reviendrons sur la notion de liberté chrétienne. Mais à présent, nous voulons vous mettre en garde contre tout mouvement cherchant à vous imposer une liste de commandements et de règlements afin de gouverner les moindres détails de votre vie. Jocelyne explique à présent en quoi ses expériences au sein de cette secte l'ont gênée ou troublée dans ses premières démarches au sein d'une église.
Mais dès l'instant où j'ai rencontré Jésus, donc avec l'église dans laquelle je fréquente aujourd'hui, mais pour moi ça a été une véritable délivrance. Mais c'est vrai qu'au départ j'avais très peur parce que je me suis dit ça y est je retombe dans une secte et c'est pour ça qu'il m'a été difficile au départ d'écouter Jésus. Parce que pour moi, j'avais mis tout le monde dans le même bac, en fait. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que vraiment, c'était une délivrance. Là, il n'y a pas de lavage de cerveau. On est complètement libre, on a des conseils, on a la liberté. Mes enfants ont retrouvé une harmonie. Moi, j'ai un couple, je suis vraiment très heureuse.
Il est regrettable que certaines sectes ressemblent en apparence aux églises. Jésus le déclare, Satan est capable de se déguiser en ange de lumière, afin de tromper les hommes et de les détruire. C'est pourquoi il nous faut faire preuve de sagesse et de discernement. Ainsi, le but de notre émission aujourd'hui est précisément de vous aider à faire la différence entre une véritable église et les mouvements sectaires qui sont éminemment dangereux. Jocelyne soulève à présent une autre différence importante entre l'église et la secte.
Dès l'instant où on suit les préceptes de Jésus, ça ne peut que fonctionner. Que dès l'instant où on est dans une secte, en fait, on n'écoute pas le Seigneur, on écoute des hommes. Et dès l'instant où on suit des hommes, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, ce sont des commandements humains, et les commandements humains ne peuvent pas aller dans une vie. C'est pas possible.
Dans une église, le Seigneur Jésus doit être au centre, car il est notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Il nous gouverne avec amour. Son enseignement, sa sagesse et ses commandements sont présents pour nous aider à grandir en lui et à mieux vivre. Souvent, dans un mouvement sectaire, Jésus est mis de côté et un homme ou une femme dirige les autres. Parfois, ce sont les écrits ou les prophéties d'un membre fondateur qui prennent une place plus importante que la Bible, la parole de Dieu. Et malheureusement pour ces gens, le bonheur de leurs adeptes ne compte guère. Au contraire, ils deviennent manipulateurs et ils les exploitent à des fins personnelles. J'ai demandé à Jocelyne si elle avait perçu le passage de la secte à la vie chrétienne comme l'affranchissement d'une loi oppressante pour vivre sous le régime vivifiant de la grâce.
Ah oui, mais complètement, c'est complètement différent. C'est vrai que la grâce, c'est formidable. Moi, je sais que vraiment, je remercie le Seigneur aujourd'hui justement de m'avoir fait grâce par rapport à tout ce que j'ai pu passer. Et là, on voit que le Seigneur est miséricordieux parce que être venu me chercher après ce que j'ai vécu, parce qu'on veut dire quand même que je l'ai renié, que j'ai quand même brûlé des Bibles, je voulais plus entendre parler de lui. Mais c'est là, moi, j'ai pris conscience vraiment de l'amour véritable qu'il avait pour ses enfants. Parce que qui d'autre peut accepter une personne qui a été dans la débauche comme je l'ai été? Ça peut être que Jésus. Personne d'autre n'aurait pu pardonner et n'aurait pu accepter ça.
Nous remercions Jocelyne de nous avoir fait part de ces choses. Aussi, nous espérons que l'intervention de Jocelyne vous aidera à rechercher la grâce de Jésus-Christ seul, la grâce de celui qui peut pardonner tout pécheur, lui accordant un nouveau départ dans la vie et l'aidant à reconstruire sa vie sur de bonnes bases.
Yann, tout à l'heure, Jocelyne a parlé de la liberté trouvée au sein de son Église. Pouvez-vous nous éclairer davantage à ce sujet?
Oui, certains, en entendant parler de la liberté du chrétien, peuvent penser que le croyant a le droit de faire tout ce qu'il veut, comme s'il n'était contraint d'obéir à aucune loi. Oh, cela n'est pas le cas.
Pouvez-vous vous expliquer?
Nous allons lire quelques versets de la Bible à ce sujet, puis Jean-Marc nous racontera une histoire courte, nous éclairant sur la question. Commençons par les textes bibliques. Pouvez-vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 36? Jésus déclare:
Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres.
Nous trouvons la confirmation dans ce verset que Jésus veut nous rendre libres. Mais quelle est cette liberté dont il parle? L'apôtre Paul nous en donne l'explication dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, versets 13 et 14.
Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même.
Le conte que nous allons relater s'est déroulé dans un pays lointain, il y a fort longtemps de cela. Il va nous faire découvrir la condition des ânes qui travaillaient dans une certaine mine de charbon. Dans cette mine, un patron cruel avait rendu leurs conditions de travail insupportables. Enchaînés à des wagons, ces bêtes de somme devaient tirer des tonnes de charbon à l'intérieur d'interminables tunnels. Ils recevaient peu d'eau, peu de nourriture, et c'est à coups de fouet donnés par les contremaîtres qu'ils devaient tirer leur lourde charge. Ils ne voyaient jamais la lumière du jour, car ils passaient leurs moments de repos dans des pièces aménagées sous terre, tout proches des tunnels qu'ils arpentaient péniblement. Mais voilà qu'un jour, la mine changea de propriétaire, et un homme bon en prit la charge. Il ne fut pas insensible à la souffrance subie par ces bêtes de somme. Aussi, il demanda que ces pauvres ânes soient remontés à la surface de la mine. Imaginez alors quelle fut leur joie quand ils se retrouvèrent dans un champ immense et qu'ils purent gambader librement, allégés de tout fardeau, délivrés de toute peur. Imaginez leur joie de pouvoir se désaltérer à tout moment aux ruisseaux à l'eau fraîche et pure qui serpentaient le champ. Imaginez leur bonheur de pouvoir satisfaire leur faim en broutant de l'herbe bien verte et en savourant quelques arbustes. Autour de ce champ se dressait une muraille bâtie de pierre, servant à les protéger des multiples dangers de l'extérieur, tels que les bêtes sauvages, les chemins bordés de précipices, les plantes épineuses ou venimeuses. Chaque jour, leur gardien les avertissait, leur disant « Ne sortez jamais de cet enclos. Ici, vous ne manquez de rien, tandis que là-bas, les dangers sont bien réels. » Et pourtant, un jour, alors qu'ils gambadaient, un âne se trouva devant une brèche creusée dans la muraille. Il regarda le chemin qui menait dans l'autre pré par-delà la muraille. Voici qu'il était beau et attrayant. « Pourquoi ne pas le suivre ?» se demanda l'âne, curieux et avide d'aventure. Alors, il franchit la muraille et emprunta le chemin, tout heureux de ses nouvelles découvertes. Rapidement, le sentier devient rude et caillouteux, mais cela ne le découragea pas. Et puis tout à coup, il trébucha. Il fit une chute de 2 mètres avant de tomber sur un arbuste épineux tout au fond d'un ravin. Notre âne, Paquerette, se mit à braire alors de toutes ses forces, en quête d'un secours. Pendant de longues heures, on entendit son braiement, tandis qu'il perdait lentement de ses forces. Mais lorsqu'enfin le soleil commença à se coucher, il entendit un bruit dans la broussaille. Son gardien arrivait-il pour lui porter secours ? Non, un lion surgissait en face de lui. Que représente donc la liberté chrétienne ? Dieu délivre celui qui croit en Jésus-Christ en le libérant de l'esclavage qui le liait à un maître cruel, Satan. C'est comme si Dieu nous plaçait en quelque sorte dans un champ verdoyant où il nous accorde la liberté de découvrir toutes sortes de bonnes choses. Nous pouvons appeler ce champ de liberté l'amour. Ainsi, nous y sommes libres pour découvrir et jouir de la beauté et de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes libres d'aimer Dieu à notre tour, libres de pratiquer un amour vrai et sincère au sein de nos familles et de notre Église, auprès de nos voisins et sur notre lieu de travail. Toutefois, Dieu a mis autour de ce champ de liberté une clôture. Or, cette clôture représente sa loi. Elle est là afin de nous protéger. Si nous désobéissons à la loi de Dieu, en quittant ce champ de liberté, nous nous exposons alors à toutes sortes de dangers, car en désobéissant à la loi de Dieu, nous nous mettons en péril.
Nous remercions tous nos invités pour leur participation aujourd'hui et nous prions pour que chacun de nos auditeurs puisse apprendre à jouir de la grâce de Dieu et à vivre de la véritable liberté du chrétien. Non pour servir à des fins personnelles, mais pour aimer les autres.
La prochaine fois, Jocelyne nous fera part une dernière fois de ses expériences et elle nous parlera notamment de ce qu'elle a éprouvé lorsque son mari a sombré dans l'alcoolisme. En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.